Chapitre 20. Bertrand Russell. À quoi bon philosopher ? C'est dans son incertitude même que réside largement la valeur de la philosophie. Le philosophe britannique Bertrand Russell est mort en 1970 à l'âge de 97 ans, et je suis surpris qu'aucun biopic n'ait encore été consacré à cette rock star de la philosophie. Que ce soit sur le plan purement intellectuel, pour ses engagements politiques et sociaux, ou encore dans sa vie personnelle et surtout amoureuse, son existence fut si riche et romanesque qu'il me sera difficile de l'évoquer ici en quelques paragraphes sans commettre d'importantes omissions. Je mettrai de côté les tumultes politiques et les affaires de cœur, c'est-à-dire au moins les deux tiers de sa vie. Russell l'exprimait dès les premiers mots de son autobiographie, il écrit « Trois passions, simples mais irrésistibles, ont commandé ma vie, le besoin d'aimer, la soif de connaître et le sentiment presque intolérable des souffrances du genre humain. » Je m'intéresserai donc surtout à la deuxième passion. Si je voulais ici relater les événements les plus marquants relatifs aux deux autres, cette digression serait à n'en pas douter plus longue que ce chapitre entier, et peut-être pas moins intéressante d'ailleurs. Mais pour limiter ma tendance à digresser, je m'en tiendrai à dire qu'il vécut et inspira de nombreuses passions amoureuses, certaines conjugales, il se maria 4 fois, d'autres non. Quant à ses engagements moraux et politiques, Russell fit preuve tout au long du XXe siècle d'une clairvoyance qui l'honore et qui le mena notamment 2 fois en prison, dont la dernière à l'âge de 89 ans. Si cette esquisse vous donne envie d'en savoir davantage, je ne peux que vous recommander la lecture de son autobiographie. Disons quelques mots de son activité scientifique et philosophique. Russell est d'abord mathématicien et logicien. En 1903, dans ses Principes de mathématiques, il attire l'attention de ses collègues sur un étrange paradoxe. L'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes s'appartient-il lui-même? Si oui, alors non, et si non, alors oui. D'où une contradiction. Pour l'expliquer un peu plus précisément, il faut savoir que, depuis que Cantor avait introduit la notion d'ensemble en mathématiques, les mathématiciens se reposaient sur une conception intuitive selon laquelle on pouvait spécifier n'importe quelle condition pour définir l'ensemble des x qui satisfont cette condition. Mais Russell fit remarquer que la condition x n'appartient pas à x créait une contradiction. En effet, appelons R l'ensemble des x tel que x n'appartient pas à x. La question cruciale est R appartient-il à R ? Vous ne tarderez pas à vous rendre compte que si R appartient à R, alors il ne doit pas appartenir à R, puisqu'en vertu de sa définition, les membres de R ne doivent pas s'appartenir eux-mêmes. Et réciproquement, si R n'appartient pas à R, alors il doit appartenir à R. À nouveau, en vertu de sa définition, un ensemble qui ne s'appartient pas lui-même doit appartenir à R. Ainsi, R ne peut ni appartenir, ni ne pas appartenir à R. C'est là le fameux paradoxe de Russell, dont les logiciens ne se lasseront jamais d'inventer des variantes. Ce petit nœud logique a ceci d'amusant et de terrible qu'il tend à se former un peu partout dans les systèmes formels quand on n'y prend pas garde, ce qui jouera un rôle important dans la crise des fondements des mathématiques. Le logicien allemand Gottlob Frege en fit les frais, lui qui s'efforçait de construire l'arithmétique sur des principes purement logiques dans ses fondements de l'arithmétique. Russell lui envoya une lettre en 1903 pour lui signaler, avec beaucoup d'amabilité, que l'un des principes de sa théorie permettait la construction d'un paradoxe de ce type, ce qui l'invalidait entièrement. Frege dut le reconnaître et ajouta à son ouvrage un appendice exposant avec rigueur et précision 2 façons de construire le paradoxe fatal qui détruisait sa propre théorie. Si ce n'est pas de l'honnêteté intellectuelle, je ne sais pas ce que c'est. Russell s'efforcera avec son ami Alfred Whitehead de reprendre le projet de Frege, réduire les mathématiques, ou au moins une large part des mathématiques, à la logique. Cette approche logiciste leur semblait en effet la meilleure façon d'assurer les fondements des mathématiques. Le système des Principia Mathematica, publié entre 1911 et 1913, auquel Whitehead et Russell travaillèrent d'arrache-pied durant de nombreuses années, constitue l'un des ouvrages de mathématiques les plus importants et influents du XXe siècle. Ce n'est pourtant pas une lecture facile. Ce n'est pas avant la page 379 de la première édition qu'il est prouvé que 1 plus 1 égale 2. Et encore, on n'est pas tout à fait sûr de s'y être pris convenablement. L'impact de cette œuvre fut sans doute encore plus important sur la logique elle-même que sur les mathématiques. En effet, logiciser les mathématiques exigeait aussi bien de mathématiser la logique. Il fallait l'extirper du langage naturel, la formaliser parfaitement, en tirer des outils plus rigoureux et plus généraux qu'il ne l'avait été jusque-là. Et c'est ainsi que la logique, cette vénérable discipline qui semblait parfaite et achevée depuis qu'Aristote en avait jeté les bases, changea radicalement de visage au début du XXe siècle. On ne dira plus « tous les hommes sont mortels », mais pour tout X, X est un homme implique X est mortel. Et ce ne sont pas des détails de notation, c'est bien l'expressivité et la généralité de la logique qui auront été profondément bouleversées par l'approche de Frege et Russell. La méthode de Russell en philosophie est fortement influencée par ses travaux de mathématicien et logicien. Ainsi recourt-il abondamment à la formalisation et à la paraphrase logique pour clarifier et désambiguiser le langage naturel dans lequel se posent les problèmes philosophiques, ou pour dégager et traiter les problèmes en apparence les plus triviaux ou bizarres, comme la question de savoir comment comprendre la phrase « l'actuel roi de France est chauve ». Russell se penche sur ces questions de philosophie du langage, notamment dans son célèbre article « On Denoting » publié en 1905. Même s'il n'y a pas de roi de France actuellement, la phrase « l'actuel roi de France est chauve » a bien un sens dans la mesure où on peut en spécifier des conditions de vérité. Et celle-ci n'étant pas satisfaite, il semble donc que la phrase ne soit pas vraie. Mais alors, que penser de sa négation « l'actuel roi de France n'est pas chauve » ? Si elle n'est pas vraie non plus, nous aurions deux phrases qui sont la négation l'une de l'autre et dont aucune n'est vraie. Et si elle est vraie, cela revient-il à dire que l'actuel roi de France est chevelu ? La solution de cette bizarrerie logique tient à l'analyse que donne Russell de l'usage de l'article défini « le » qui spécifie une description définie. La paraphrase logique de « l'actuel roi de France est chauve » a, selon lui, la forme suivante « il y a un et un seul X tel que X est actuellement roi de France et X est chauve ». Et la négation de cette phrase n'est donc pas « il y a un et un seul X tel que X est actuellement roi de France et X n'est pas chauve ». La négation doit porter sur l'ensemble de la phrase, c'est-à-dire « il n'y a pas un et un seul X tel que X est actuellement roi de France et est chauve ». Ce qui en effet est vrai, non pas parce qu'il y a un roi de France chevelu, mais parce qu'il n'y a pas de roi de France du tout. Et au-delà des histoires de calvitie dans les dynasties royales, ce genre de subtilité sur le fonctionnement des négations portant sur des descriptions définies a beaucoup d'importance pour clarifier de nombreux points de discussion en philosophie comme ailleurs. Russell est l'auteur de contributions importantes dans presque tous les champs de la philosophie. Il sera difficile de les résumer ici, d'autant plus que ses vues sur certains sujets ont pu largement changer au cours de sa longue carrière. Mais son influence sur la philosophie du XXe siècle semble moins résider dans les thèses particulières qu'il a successivement défendues ou rejetées que dans la méthode et le style argumentatif qu'il a toujours employé. La philosophie analytique, dont il est une figure cardinale, n'est pas caractérisée par un ensemble de thèses sur lesquelles les philosophes analytiques s'accorderaient, mais bien plutôt par un certain type de méthode et d'approche, recours au formalisme logique, effort de clarté et de rigueur argumentative, prise en compte de l'apport des sciences, dont Russell, en effet, est un représentant illustre. Enfin, en dehors de ses articles de recherche, Russell est aussi un excellent pédagogue. Plusieurs de ses œuvres visent un objectif de vulgarisation ou d'initiation à la philosophie et restent encore aujourd'hui d'excellentes portes d'entrée pour le profane. Depuis que la philosophie est devenue une discipline universitaire, ce souci d'écrire pour un large public non spécialiste est devenu assez rare chez les philosophes de profession. Deux textes de Russell sont particulièrement représentatifs de cette dimension pédagogique et vulgarisatrice. Sa volumineuse « Histoire de la philosophie », dont chaque chapitre présente un auteur ou un mouvement sous une forme particulièrement accessible et plaisante à lire. D'autre part, « Les problèmes de philosophie », un livre assez court qui introduit de façon lumineuse à plusieurs grands thèmes de la philosophie, en particulier sur la question de la connaissance. C'est presque toujours ce livre que je conseille quand une personne veut lire un premier livre de philosophie si elle n'a pas de préférence pour un champ précis. J'ai un attachement tout particulier pour le dernier chapitre de ce livre qui s'intitule « La valeur de la philosophie ». C'était par des extraits de ce texte que j'introduisais le cours de philosophie que je donnais chaque année à mes classes au lycée, car il me semblait que je ne pouvais pas faire mieux que Russell pour louer les vertus de cette discipline que les élèves ne connaissaient pas encore. Il me semble que je ne saurais mieux conclure ce livre qu'en vous présentant quelques-unes de ces belles pages qui résument pourquoi, en dépit de l'incertitude où elles nous plongent, ou plutôt en vertu de celle-ci, il n'est pas vain de s'intéresser à la philosophie. Russell écrit : Il sera profitable, en conclusion, de considérer la valeur de la philosophie et les motifs qu'on peut avoir de l'étudier. Il est d'autant plus nécessaire de traiter cette question que bien des hommes, sous l'influence de la science ou de la vie pratique, inclinent à penser que la philosophie n'est rien d'autre qu'un jeu innocent mais frivole, l'art de couper les cheveux en quatre, bref, un ensemble de controverses sur des sujets où la connaissance est impossible. L'esprit pratique, au sens habituel de cette expression, ne connaît que les besoins matériels de l'humanité. Il sait que l'homme doit entretenir son corps, il a oublié que son esprit réclame aussi de la nourriture. Même si tous les hommes avaient assez pour vivre, même si la misère et la maladie avaient été supprimées autant qu'il est possible, il resterait encore beaucoup à faire pour construire une société digne de ce nom. Et même dans le monde tel qu'il est, les biens de l'esprit sont au moins aussi importants que les biens du corps. La valeur de la philosophie est exclusivement de l'ordre de ces biens de l'esprit. Seul celui qui n'est pas indifférent à cet ordre peut se persuader que la philosophie n'est pas une perte de temps. Comme toute autre discipline, la philosophie vise d'abord à connaître. La connaissance qui est sa visée propre est celle qui procure l'unité systématique au corps des sciences et qui résulte d'un examen critique des fondements de nos convictions, préjugés et croyances. Mais il faut bien reconnaître que, dans son effort pour apporter des réponses précises à ces questions, la philosophie n'a pas rencontré un succès considérable. Un mathématicien, un minéralogiste ou un historien, comme n'importe quel homme de science, à qui l'on demande quelles vérités déterminées sont reconnues dans la discipline, pourra répondre aussi longuement que vous êtes disposé à l'écouter. Mais poser la même question au philosophe, s'il est de bonne foi, il devra avouer que sa discipline n'est pas parvenue aux résultats positifs qu'on trouve dans les autres sciences. Il est vrai que cet état de choses s'explique en partie ainsi. Dès qu'une connaissance bien définie d'un domaine devient possible, ce domaine cesse d'appartenir à la philosophie et devient l'objet d'une science distincte. L'étude des cieux, qui appartient maintenant à l'astronomie, faisait autrefois partie de la philosophie. Le grand ouvrage de Newton avait pour titre « Principes mathématiques de la philosophie naturelle ». De même, l'étude de l'esprit humain était une partie de la philosophie, elle s'en est aujourd'hui séparée pour devenir la psychologie scientifique. De sorte que l'incertitude de la philosophie est dans une large mesure plus apparente que réelle. Les questions qui ont trouvé une réponse définie sont rangées dans la science, et celles qui restent ouvertes forment cette sorte de résidu qu'on appelle la philosophie. Bertrand Russell, Problème de philosophie. En somme, Russell commence par faire observer que, si la philosophie est une discipline qui vise à établir des connaissances, elle semble étrangement incapable d'en établir une seule. Mais cette impression d'inefficacité viendrait en large partie du fait que, chaque fois qu'une de ses branches acquiert une méthodologie rigoureuse et aboutit à des résultats solides, cette branche s'autonomise et est dès lors perçue comme une discipline scientifique à part. Les mathématiques et l'astronomie en seraient les exemples les plus anciens. Mais le cas le plus spectaculaire est sans conteste celui de la philosophie de la nature, qui donnera naissance à la science physique après que Galilée, Newton et la révolution scientifique l'ont transformée de fond en comble. Toute science a un objet et des limites. La philosophie, au contraire, n'a pas de domaine propre et peut ainsi se permettre des excursions rationnelles dans des champs qui ne sont pour l'heure étudiés par aucune science établie. Son rôle serait ainsi de constituer des sortes d'avant-postes de la connaissance qui ne demandent qu'à se développer au point de mériter d'être considérées comme disciplines scientifiques. Et à mesure que les sciences progressent, et ce progrès est tout à fait conforme à l'ambition de la philosophie, le champ propre de la réflexion philosophique tend donc à se réduire jusqu'à n'être plus aujourd'hui qu'un résidu de questions insolubles. Insolubles, mais importantes, comme le souligne Russell dans la suite immédiate du texte. Russell écrit : Mais touchant l'incertitude de la philosophie, ce n'est là que la moitié de la vérité. Bien des questions, en particulier celles qui présentent le plus grand intérêt pour notre existence spirituelle, doivent rester insolubles, pour autant qu'on puisse le savoir, à moins que les pouvoirs de l'intellect humain ne changent radicalement. L'univers présente-t-il une unité de plan et de but, ou n'est-il qu'une rencontre fortuite d'atomes ? La science est-elle un fait permanent dans l'univers, d'où l'espoir d'un progrès indéfini en sagesse, ou n'est-il qu'un accident transitoire sur une petite planète où la vie finira par s'éteindre? Le bien et le mal ont-ils un sens pour l'univers, ou n'ont-ils de sens que pour l'homme? Ce sont là des questions philosophiques auxquelles les philosophes ont apporté des réponses variées. Peut-être existe-t-il d'autres voies pour découvrir la réponse, mais il semble qu'on ne puisse démontrer la vérité d'aucune des réponses proposées par la philosophie. Et pourtant, aussi mince que soit l'espoir de parvenir à une solution, c'est une partie de la tâche de la philosophie de poursuivre ces interrogations, de nous faire prendre conscience de leur enjeu, d'examiner les différentes approches qu'on peut en avoir, et de garder vivant cet intérêt spéculatif pour l'univers que la connaissance assurée, trop bien établie, peut tuer si l'on s'y laisse enfermer. En fait, c'est dans son incertitude que réside largement la valeur de la philosophie. Celui qui ne s'y est pas frotté traverse l'existence comme un prisonnier, prisonnier des préjugés du sens commun, des croyances de son pays ou de son temps, de convictions qui ont grandi en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Tout dans le monde lui paraît aller de soi, tant les choses sont pour lui comme ceci et pas autrement, tant son horizon est limité. Les objets ordinaires ne le questionnent pas, les possibilités peu familières sont refusées avec mépris. Mais nous l'avons vu dès le début de ce livre, à peine commençons-nous à philosopher que même les choses de tous les jours nous mettent sur la piste de problèmes qui restent finalement sans réponse. Russell fait ici référence au premier chapitre de son livre où il part de l'exemple de la table sur laquelle il écrit et fait la distinction entre l'apparence sensible de la table et une hypothétique et inaccessible table réelle qui produirait cette apparence sensible. La chose en soi qu'ancienne n'est pas loin. Russell poursuit. Sans doute, la philosophie ne nous apprend pas de façon certaine la vraie solution au doute qu'elle fait surgir, mais elle suggère les possibilités nouvelles, elle élargit le champ de la pensée en la libérant de la tyrannie de l'habitude. Elle amoindrit notre impression de savoir ce que sont les choses, mais elle augmente notre connaissance de ce qu'elles pourraient être. Elle détruit le dogmatisme arrogant de ceux qui n'ont jamais traversé le doute libérateur, et elle maintient vivante notre faculté d'émerveillement en nous montrant les choses familières sous un jour inattendu. Russell, problème de philosophie. À l'image de Socrate, dont la sagesse résidait justement en ceci qu'il reconnaissait son ignorance là où ses contemporains se leurraient dans l'illusion de savoir, la réflexion philosophique, telle que Russell la présente dans ses pages, développerait davantage la reconnaissance de l'incertitude que l'établissement de connaissances positives. Mais notez bien que, si les philosophes cultivent le doute, ils ne sont pas pour autant sans réponse et sans argument. Tout au contraire, l'incertitude naît de la multiplicité des réponses possibles et des forces relatives des arguments dans un sens comme dans l'autre, tandis que l'assurance du sens commun provient bien souvent de ce qu'il ne voit aucune autre réponse que la sienne et ne se soucie pas de l'appuyer sur des justifications. Certes, il n'y a pas ou presque pas de consensus sur les questions philosophiques, mais on y trouve des discussions et des arguments. Et si l'on peine tant à se mettre d'accord, cela vient de ce que, la plupart du temps, aucun de ces arguments n'est assez décisif pour régler définitivement la question. Au terme de l'enquête philosophique, il est ainsi difficile de dire si l'on en sait plus ou si l'on en sait moins. Ce qui paraissait facile s'est révélé complexe, ce que l'on tenait pour évident pourrait finir par nous paraître absurde. Ou, pour emprunter les mots de Russell dans ses leçons sur l'atomisme logique, l'intérêt de la philosophie est de partir de quelque chose de si simple qu'il semble que cela ne vaille pas la peine d'être dit, et d'arriver à quelque chose de si paradoxal que personne ne le croira. On ne saurait faire un plus bel éloge de la philosophie. Quelques livres pour aller plus loin. Bertrand Russell, Essai sceptique, Les belles lettres, 2010. Le scepticisme de Russell n'a rien du scepticisme héroïque de l'Antiquité, ni du scepticisme radical, quoique tempéré par la force de l'habitude, de Hume. C'est un scepticisme rationnel et modéré qui préconise aux non-spécialistes de s'en remettre à l'avis des spécialistes quand il y en a un et de suspendre son jugement dans le cas contraire. Ces essais sceptiques développent, pour un public de non-spécialistes justement, diverses conséquences de cette pensée, avec cette ironie flegmatique qui caractérise tant d'écrits de Russell. Il écrit par exemple « Je désire soumettre à l'examen bienveillant du lecteur une doctrine qui, je le crains, va paraître terriblement paradoxale et subversive. La doctrine en question est celle-ci. Il n'est pas désirable d'admettre une proposition quand il n'y a aucune raison de supposer qu'elle est vraie. » Je dois reconnaître, bien entendu, que si une telle opinion devenait commune, elle transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique. Et comme tous les deux sont actuellement sans défaut, ma doctrine ne pourrait pas tenir contre eux. Logicomics par Apostolos Doxiadis, Christos Papadimitriou et Alekos Papadatos, Vuibert, 2010. Épopée intellectuelle cachée dans un récit gigogne, ce roman graphique met en scène les auteurs de ce même roman graphique s'efforçant de raconter l'histoire de Russell, faisant une conférence au cours de laquelle il retrace ses aventures de jeunesse à la recherche des fondements des mathématiques et de la logique, où l'on croisera le jeune Wittgenstein ainsi qu'une flopée de mathématiciens et de logiciens qui semblent tous à moitié fous. Bertrand Russell, Problème de philosophie, Payot, 1989. Bien que l'ouvrage ait plus d'un siècle et qu'il reflète un état particulier du développement de la pensée de Russell, cela reste une introduction pertinente et passionnante à quelques grands thèmes de la philosophie classique et contemporaine. Ce texte a le mérite d'être à la fois de la plume d'un des plus grands auteurs du XXe siècle et d'être conçu comme un texte d'enseignement destiné au grand public. Et de la même façon que je donne des conseils bibliographiques à la fin de chaque chapitre, Russell prodigue les siens à la fin de l'ouvrage. Il écrit « Pour qui souhaite acquérir une connaissance élémentaire de la philosophie, il est plus facile et plus utile de lire certains ouvrages des grands philosophes que de chercher à tirer des manuels une vue d'ensemble. Les ouvrages suivants sont tout particulièrement à recommander. Platon, La République, livres 6 et 7 en particulier. Descartes, Méditation. Spinoza, Éthique. Leibniz, la monadologie, Berkeley, trois dialogues entre Hylas et Philonous, Hume, enquête sur l'entendement humain, Kant, prolégomène à toute métaphysique future. Conclure ces conseils bibliographiques en citant les conseils bibliographiques de l'ouvrage que je conseille, n'est-ce pas délicieusement méta? La philosophie est-elle morte? Le physicien Stephen Hawking, dans les premières lignes de son livre « Le grand dessein », déclarait de façon assez provocatrice et péremptoire « La philosophie est morte ». Et de fait, tous les auteurs auxquels j'ai consacré un chapitre sont bien morts. Cela pourrait entretenir l'idée que la philosophie consiste essentiellement à étudier des auteurs du passé, que sa tâche n'est plus qu'historique et que c'est aux seules sciences maintenant que revient la mission d'établir de nouvelles connaissances. Or, cela me semble tout à fait erroné. Non, la philosophie n'est pas morte. Et quoique l'étude de son histoire soit passionnante, les philosophes actuels ne s'en contentent pas, loin de là. Je voudrais donc conclure en développant quelques aspects de l'actualité de la philosophie et de son rapport aux sciences. La petite phrase de Hawking est un symptôme intéressant à étudier. Le passage complet qui ouvre son livre est le suivant. Quelle est la nature de la réalité? D'où tout cela vient-il? L'univers a-t-il besoin d'un créateur? Traditionnellement, ce sont des questions pour la philosophie, mais la philosophie est morte. La philosophie n'a pas suivi les développements modernes des sciences, en particulier en physique. Les scientifiques sont devenus les porte-flambeaux de la découverte dans notre quête de connaissances. Dans le chapitre précédent, nous avons vu avec Russell pourquoi le champ de la philosophie tend en effet à se réduire à mesure que les sciences progressent, c'est-à-dire à mesure que l'on met au point des méthodologies efficaces pour traiter tel ou tel type de questions. Et pourquoi c'est le but même de la philosophie que de solidifier sa méthode autant que possible et d'ainsi constituer peu à peu des champs scientifiques autonomes. Déclarer la mort de la philosophie, ce serait donc déclarer qu'absolument toute question digne d'intérêt tombe désormais dans le champ d'une science déjà constituée qui peut y répondre. De fait, en tant qu'ami des connaissances, tout philosophe aimerait que la philosophie soit ainsi morte de sa belle mort, c'est-à-dire en donnant naissance à une sorte de science universelle ou à un ensemble universel de sciences. Mais ce n'est pas sous-estimer la portée actuelle des sciences que de dire que nous en sommes encore bien loin. Pas seulement parce que les sciences ne répondent pas à toutes les questions que l'on peut leur poser, mais parce qu'il y a des questions que l'on ne peut poser à aucune science. Et beaucoup de ces questions sont dignes d'intérêt et ne sont pas inaccessibles à l'argumentation rationnelle. Prenons un seul exemple. L'exploitation des animaux est-elle aujourd'hui moralement justifiée? C'est une question importante, certes. Et même en disposant d'une théorie unifiant toute la physique, il est difficile d'imaginer ce que cela pourrait nous dire de pertinent à ce sujet. D'autres sciences, comme la biologie ou la psychologie, nous apportent des informations précieuses pour y réfléchir, par exemple sur le traitement cognitif de la douleur ou sur la psychologie des jugements moraux, mais cela non plus ne suffit pas pour justifier une réponse à cette question proprement morale. Il faut ici l'entendre au sens normatif et non descriptif. Se contenter d'expliquer l'origine de nos intuitions morales à ce sujet ne constitue pas une réponse. Une telle question n'est tout simplement pas du domaine des sciences actuelles. Les questions éthiques, normatives, restent ainsi dans ce résidu de questions insolubles qui, comme Russell l'évoquait dans le chapitre précédent, constitue le champ propre de la philosophie. Et ce qui est vrai de ces questions l'est aussi pour bien d'autres que nous avons évoquées au fil de cet ouvrage. Voilà pourquoi déclarer la philosophie morte me paraît tout à fait inexact. Même si vous vouliez soutenir que les questions qui ne relèvent d'aucune des sciences actuelles sont toutes vides de sens, ce serait une position à justifier, et cette justification relèvera du débat philosophique, épistémologique, et non d'une science. Hawking ne voulait peut-être pas dire que toute la philosophie est morte. Il pouvait restreindre son propos au champ de la philosophie qui, il fut un temps, prétendait répondre aux questions mentionnées dans son premier paragraphe. Par exemple, quelle est la nature de la réalité ? D'où tout cela vient-il ? Question qui relève de ce qu'on appelait alors la philosophie naturelle. Celle-ci est bien morte depuis qu'une poignée de philosophes audacieux ont jeté les bases de la physique moderne. Et nul ne songerait à nier que les physiciens sont aujourd'hui les mieux placés pour proposer des réponses à ce type de questions. Mais cela implique-t-il que la philosophie n'ait plus rien à apporter à leurs réflexions scientifiques et que la philosophie serait ainsi morte au moins pour leur discipline ? Il est intéressant de noter que parmi les questions que Hawking énumère au début de son ouvrage comme des questions traditionnellement dévolues à la philosophie, mais celle-ci étant morte, il faut croire que c'est à la physique d'y répondre maintenant, la toute première, qui semble en effet la plus fondamentale, est la question suivante. Comment pouvons-nous comprendre le monde où nous nous trouvons ? Autrement dit, que pouvons-nous connaître ? Et, en particulier, jusqu'à quel point une science comme la physique nous permet-elle de connaître et de comprendre ce monde ? Voilà d'excellentes questions, certes, et force est de constater qu'elles ne tombent pas dans le champ de la physique. C'est une réflexion qui relève de l'épistémologie ou de la philosophie des sciences. Et nous avons d'ailleurs déjà croisé plus d'une fois de telles questions dans notre itinéraire philosophique. Je déplore bien souvent que la philosophie soit perçue comme une discipline littéraire, surtout en France. Elle est en fait naturellement voisine des sciences. Les philosophes analytiques, notamment, attachent une grande importance à rester informés de l'état des connaissances scientifiques et à fonder leurs réflexions sur celles-ci. Et il va de soi que cette exigence est particulièrement forte parmi ceux qui travaillent sur la philosophie des sciences. Beaucoup ont même une double casquette de philosophe et de scientifique. La réciproque, en revanche, est beaucoup moins vraie. Il est assez rare que les scientifiques aient plus qu'une vague idée des travaux actuels en philosophie des sciences. On attribue au brillant physicien Richard Feynman ce mot cinglant « La philosophie des sciences est aussi utile aux scientifiques que l'ornithologie est utile aux oiseaux ». La formule est presque toujours attribuée à Feynman et elle pourrait être assez fidèle à son esprit, mais pour autant que je sache, il n'y a aucune source qui l'atteste et je parie que cette attribution est erronée. Quoi qu'il en soit, c'est une jolie formule. Or, contrairement aux oiseaux qui n'ont en effet pas besoin des ornithologues pour savoir comment voler, les scientifiques sont parfois amenés à réfléchir à leur propre pratique et à se confronter à des questions relevant non plus directement de leur science, mais de l'épistémologie. C'est bien ce qu'illustre involontairement l'ouvrage de Stephen Hawking dont je citais l'introduction. En dépit de la déclaration initiale selon laquelle la philosophie est morte, une large part de ce livre développe des considérations sur le réalisme et l'antiréalisme qui ne relèvent pas de la physique, mais bien de la philosophie des sciences. Or, sans connaissance précise des débats philosophiques actuels sur ce sujet, et c'est pourtant un débat extrêmement riche et développé, Stephen Hawking ne fait que réinventer de façon imprécise des idées déjà formulées et discutées par bien d'autres avant lui. Son exposé sur ces questions reste ainsi très incomplet et assez naïf, et n'a pas autant de clarté et de rigueur que l'on pourrait en attendre aujourd'hui. Si Stephen Hawking est un physicien important, C'est notamment parce qu'il a travaillé et échangé avec la communauté des physiciens. Cette dimension collective dans la recherche des connaissances est plus que jamais cruciale aujourd'hui. La science ne se fait pas seule. La philosophie non plus. Et si les questions de philosophie des sciences semblent à Hawking si cruciales qu'il y consacre une bonne part de son livre Le Grand Dessein, plutôt que de déclarer la mort de la philosophie et d'encourager ses lecteurs et ses pairs à s'en détourner, ne vaudrait-il pas mieux que scientifiques et philosophes travaillent et réfléchissent ensemble sur ces questions? Le physicien et philosophe Carlo Rovelli a récemment consacré un bel article à discuter ces points qui sonnent comme une réponse à Hawking « Physics needs philosophy, philosophy needs physics », c'est-à-dire « la physique a besoin de la philosophie a besoin de la physique ». La science n'a pas tué la philosophie. Toutes deux sont plus vivantes que jamais, et pourvu que l'on ne s'en fasse pas une fausse idée, l'intérêt pour l'une ne peut que nourrir l'intérêt pour l'autre. Après tout, il s'agit toujours de poser des questions et de tâcher d'y répondre, être curieux et rationnel, qualité autant scientifique que philosophique. Je remercie Fabien Micolle, premier et meilleur lecteur, pour tous ses commentaires acérés, exigeants et perspicaces. Si ce livre ne contient ni trop de bêtises ni trop d'obscurité, c'est grâce à lui. Vous venez d'écouter Curiosité philosophique de Platon à Russell de Thibaut Giraud, lu par Thibaut Giraud, une production Audible Studio.
Merci et à bientôt chez Audible.